Et voici donc l'accent des autres. Bienvenue à vous dans ce rendez-vous avec les médias francophones publics. Ce sont les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours. Avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu et la RTBF. On va commencer aujourd'hui en Suisse, où les hautes écoles s'inquiètent pour la santé psychologique de leurs étudiants iraniens, Pierre-Anne Chauffard.
Forcément marqués par la répression en cours dans leur pays, ils se sentent impuissants, sous pression, préoccupés, ce qui péjore leurs résultats.
Sur le sol africain à présent, après le Mali, la France va retirer ses troupes du Burkina Faso, Nicolas Sûr.
Oui, Ouagadougou a demandé le départ d'ici un mois des 400 soldats des forces spéciales présents dans le pays.
Grève et manifestations toujours en France. La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas, Eric Valmire.
La réforme des retraites occupe toujours la une de l'actualité en France, mais qu'en pensent les seniors ?
Et c'est ce que vous entendrez dans quelques instants. La réforme des retraites en France, la hausse du coût de la vie aussi, qui retient particulièrement l'attention au Canada en ce début d'année, Benoît Audet.
Oui, la Banque du Canada vient encore une fois de relever son taux directeur, mais annonce du même souffle qu'elle pourrait prendre une pause dans les prochains mois.
Enfin, en Belgique, une majorité de citoyens souhaite une gouvernance plus autoritaire. C'est l'un des résultats d'une grande enquête publiée par la RTBF, Jacques Crémers.
Oui, une enquête noir-jaune-blues qui mesure périodiquement les aspirations des Belges. Elle montre aussi une tendance au repli sur soi, tout en proposant des pistes de solutions.
Et voilà donc pour les titres de cette semaine. La répression du mouvement de contestation en Iran a donc aussi des répercussions en Occident et notamment en Suisse, en particulier, Pierre-Anne, pour les étudiants iraniens qui vivent mal cette situation.
Ils sont plus de 200 sur le campus des hautes écoles lausannoises et quelques-uns ont accepté de témoigner anonymement pour dire leur désarroi face à ce que vivent leurs proches ou leurs amis restés en Iran. Un certain sentiment d'impuissance, de culpabilité aussi. Ce jeune homme se demande chaque jour ce qu'il peut faire pour eux, sauf qu'il ne peut pas se permettre de négliger ses études.
Pour une mois et demi, j'ai coupé tous les accès aux réseaux sociaux. Tous les jours, chaque 5 minutes, il y avait des vidéos violentes, des nouvelles tellement tristes. C'est pas possible de garder la concentration sur le travail. C'est difficile.
Or, en cas d'échec, il devrait normalement rentrer en Iran, son permis de séjour étant lié à ses études. Le recteur de l'université de Lausanne, Frédéric Barman, laisse toutefois entrevoir des aménagements au vu de la situation en Iran.
On a aussi une certaine marge de flexibilité pour prolonger des études de niveau bachelor ou master. Dans le cadre d'un doctorat, il y a aussi un programme en cas de force majeure, mais on peut adapter et puis prolonger le doctorat.
D'autant que la peur est là, un retour au pays leur paraît impossible. Ces étudiants se sentent surveillés par les autorités iraniennes.
On est les étudiants d'un labo qui fait quelque chose qui peut être intéressant pour le gouvernement en Iran. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de pression. J'ai des histoires, des amis qui étaient gardés plusieurs fois, qui étaient menacés même.
Une médecin d'origine iranienne a également témoigné cette semaine à la télévision des menaces qu'elle a subies après avoir participé à une manifestation à Genève. Le service de renseignement de la Confédération parle, lui, d'une intensification des activités de renseignement de l'Iran en Suisse au cours des derniers mois.
Oui, et en Belgique, 3 Iraniens se battent actuellement pour ne pas être expulsés. Ils ont été déboutés de leur demande d'asile, mais ils ont participé aux manifestations contre le pouvoir iranien et ils craignent donc pour leur vie s'ils devaient finalement être expulsés par la Belgique. La France, elle va donc retirer ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois. Les relations sont très tendues entre Paris et Ouagadougou et les autorités burkinabées ont dénoncé l'accord de 2018 qui autorisait le déploiement de 400 soldats français, Nicolas.
Oui, il s'agit de 400 militaires des forces spéciales déployés au sein de l'opération Sabre. Ils sont logés à la base de Camboissin, près de Ouagadougou. L'accord de défense qui liait la France et le Burkina est dénoncé par les autorités de transition. Celle-ci précise qu'il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre les deux pays. Toutefois, l'ambassadeur de France à Ouagadougou est rappelé en consultation. Rappel provisoire ou définitif, le ministère français des Affaires étrangères ne l'a pas dit. Mais Luc Allade rentre à Paris alors que les autorités du Burkina avaient demandé il y a déjà quelques semaines son remplacement. On lui reprochait entre autres d'avoir fait publiquement état de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays.
Les soldats français vont donc quitter le Burkina. Quelle est, Nicolas, la stratégie de Ouagadougou ?
Eh bien, la ministre burkinabé des Affaires étrangères martèle que son pays souhaite d'abord compter dans la lutte antiterroriste sur ses propres forces de sécurité et sur les volontaires pour la défense de la patrie qui sont des supplétifs civils de l'armée. Officiellement, pas question de faire appel, comme le Mali voisin, aux paramilitaires russes du groupe Wagner. La France aura fait partir ses soldats d'ici un mois. En août dernier, elle avait achevé le retrait de ses militaires du Mali. Paris garde toutefois des soldats au Sahel, au Niger et au Tchad.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres.
La réforme des retraites de plus en plus contestée en France. Un sondage publié cette semaine annonce 72% de mécontents, 72%. Des grèves sont encore observées dans plusieurs secteurs pour rejeter le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mobilisation donc, manifestation de ceux qui travaillent aujourd'hui, les futurs retraités donc. Mais Eric, vous avez cette semaine sondé les seniors, les retraités d'aujourd'hui.
Il y a les manifestations nationales, les mouvements dans les grandes villes de France, mais il y a aussi les initiatives locales, comme à Alençon, dans l'Orne, où l'intersyndicale organise des rassemblements devant la préfecture. Et que ce soit dans les cortèges ou ces rassemblements, les jeunes inquiets pour leur avenir sont assez nombreux. Mais qu'en pensent les plus anciens ? Louis Fontaine, de France Bleu Normandie-Caen, s'est rendu au repas annuel des anciens de la commune de Blainville-sur-Orne.
À Blainville-sur-Orne, les seniors représentent 25% de la population de la commune. Jean a 80 ans. Pour cet habitant, le gouvernement n'a pas choisi le bon moment pour présenter la réforme.
C'est une bêtise de l'avoir lancé tout de suite, la retraite à 64. Ils auraient mieux fait de laisser comme c'est maintenant. Parce que dans le contexte actuel, vu que le pouvoir d'achat est tout un tas de bazar, c'est pas le bienvenu.
À la table d'en face, Monique et Yvette s'apprêtent à manger. Monique est contre le départ à 64 ans, surtout pour les métiers pénibles.
Il ne faut pas pousser, il y a des ouvriers et tout. Attention, il faut voir le travail hein, qu'ils ont aussi. Hein. Je crois qu'à 60 ans, c'est bien mérité. Hein.
Yvette n'est pas d'accord. Le problème ne vient pas de l'âge de départ, mais de l'envie de travailler.
Et maintenant, je crois qu'ils ne veulent plus non plus travailler le samedi, plus le dimanche. Nous, on a travaillé jusqu'au dimanche midi. Hein.
Pour Michel, jeune retraité de 67 ans, la réforme des retraites, c'est du bon sens.
Il y a beaucoup de retraités hein, et il y a plus de retraités que de gens actifs. Parce que jusque maintenant, les actifs, c'était eux qui abondaient, si vous voulez, au régime de la retraite par leur travail. Hein.
Loin de la réforme, ces Blainvillais comptent bien profiter de leur retraite, surtout sur un air de musette.
Reportage France Bleu Normandie-Caen et Olivier, la réforme de la retraite, c'est sûr, on n'a pas fini d'en parler ici.
Oui, effectivement, une réforme annoncée très contestée donc en France et un appel à une nouvelle grève lancée par les syndicats pour ce 31 janvier, mardi prochain, dans toute une série de secteurs. Au Canada, cette fois, on a été habitué pendant des années à des taux d'emprunt très bas pour financer notamment l'achat de sa maison. Mais la Banque du Canada a sonné la fin de la récréation l'an dernier. L'institution a graduellement relevé son taux directeur pour contrer la hausse importante de l'inflation. Et résultat, Benoît, si la hausse de l'inflation a quelque peu plafonné, eh bien beaucoup de Canadiens sont maintenant frappés par la hausse de leur paiement.
Tout à fait. Les hausses successives du taux directeur de la Banque du Canada ont eu un effet réel sur les finances des ménages canadiens. Il y a un an, en février 2022, le taux directeur était d'un quart de point, donc 0,25%. Il se situe maintenant à 4,5%. Ce taux a un effet direct sur les prêts contractés par les consommateurs, dont les prêts hypothécaires.
Alors, le marché immobilier était en hausse constante depuis plusieurs années et les faibles taux d'intérêt ont incité de nombreux Canadiens à emprunter des sommes importantes pour financer leurs propriétés.
Oui, des taux hypothécaires variables à moins de 2% étaient monnaie courante. Le faible taux d'emprunt faisait en sorte que les gens pouvaient emprunter davantage. Mais ces taux dépassent maintenant les 6% dans certains cas. Pour vous donner un exemple, pour les propriétaires qui ont une hypothèque de 400 000 $, ça représente une facture supplémentaire d'environ 12 000 $ par année.
Oui, cela dit, il y a malgré tout peut-être un peu d'espoir selon la Banque du Canada.
Oui, l'institution estime que son remède commence à porter fruit. La banque annonce donc une pause dans la hausse de son taux directeur. C'est toutefois une pause conditionnelle. L'inflation doit continuer de montrer des signes de ralentissement au cours des prochains mois.
Enfin, on va terminer en Belgique, puisque la RTBF a publié cette semaine avec le quotidien Le Soir les résultats d'une grande enquête intitulée « Noir, jaune, blues ». On y apprend qu'une majorité de citoyens souhaitent un vrai chef, un leader charismatique et autoritaire, 52% exactement. C'est un chiffre en augmentation par rapport aux précédentes enquêtes, Jacques.
Oui, car Noir Jaune Blues est un baromètre périodique mené par des sociologues qui permet donc de comparer les aspirations des Belges dans le temps, ici après la pandémie de Covid-19, le déclenchement de la guerre en Ukraine ou encore l'augmentation importante des coûts de l'énergie, autant de chocs qui ont fait évoluer la perception des Belges interrogés dans cette nouvelle enquête. Alors que dit-elle ? Eh bien qu'une majorité de citoyens n'a plus confiance dans les institutions, plus d'un Belge sur deux aspire à une gouvernance autoritaire, avoir un vrai chef, c'est une tendance qui se renforce. On constate aussi un repli sur soi, où la famille serait le seul combat qui vaille la peine d'être mené, un rejet des élites, des corps intermédiaires, des juges, des syndicats. Et si le monde va mal pour une majorité, c'est à cause de boucs émissaires comme les personnes étrangères.
Oui, c'est un constat, ce sont des constats inquiétants. Jacques, les auteurs de l'étude proposent aussi une série de recommandations.
Comme éviter les discours culpabilisants, catastrophistes et le vocabulaire guerrier, les auteurs préconisent plutôt de se mettre à l'écoute de la population et de comprendre les peurs exprimées. Il faut tenter de convaincre que des sociétés plus ouverte, protège mieux contre les gouvernances autoritaires. Le plus difficile sera peut-être de reconstruire la confiance en la démocratie en évitant d'imposer d'en haut un catalogue de mesures. Il faut donc plutôt développer des projets à partir d'en bas, créer un désir d'agir, de quoi retrouver, c'est l'espoir, une vision commune et collective.
Et cette enquête a été réalisée en 3 vagues successives entre février 2020 et juillet 2022. 1059 personnes interrogées lors de la 3e vague. La marge d'erreur maximale est de 2,7%. Voilà pour l'accent des autres cette semaine. On va se quitter sur ce coup de sonde donc en Belgique. Merci pour votre fidélité. Les médias francophones publics reviennent bien sûr dans 8 jours à la même heure. Excellente fin de semaine.